Le collège, de Kuta.
Des interviews,
des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On the Show.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Escapade, dans notre émission Onde de choc. Je suis Lily et je suis en compagnie de Lucas.
Bonjour à tous, nous sommes les animateurs principaux de l'émission numéro 3 d'Onde de choc.
Effectivement, et un programme riche et varié nous attend.
Tout d'abord, nous découvrirons le dispositif scolaire Requin Rémora, présenté par Lola.
Ensuite, une touche littérature avec le coup de cœur de Athénaïs, Demon Slayer, et celui de Paolo, Teen Wolf. Avec en prime une chronique de Loris et Logan sur les livres les plus lus au monde.
Après la littérature, du sport avec Valentin et Charlie, qui nous présenteront l'homme le plus rapide au monde. Et de la danse avec Hippolyte, une vraie passion. Ensuite, Lily nous fera découvrir une artiste très connue. Restez avec nous pour en savoir plus.
Et pour finir, vous la connaissez bien et vous l'attendez, les records en Espagne de Paul et Maël.
Commençons tout de suite avec Lola. Bonjour Lola, tu vas aujourd'hui nous parler du dispositif scolaire Requin Rémora.
Bonjour tout le monde, je suis une élève de 3e et je fais partie de l'activité Requin Rémora. C'est une activité faite entre 3e et 6e, où les 3e, qui sont les Rémora, doivent aider les 6e, qui eux sont les requins, de leurs devoirs et leurs difficultés. Ce dispositif mis en place il y a 2 ans est organisé en début d'année. Le principal invite tous les élèves de 6e et 3e intéressés à se rendre dans une salle pour qu'ils puissent expliquer comment ça va se dérouler. Une semaine plus tard, le principal les réinvite à venir pour que ceux qui sont toujours intéressés puissent trouver leur requin ou leur rémora et mettre en place des horaires correspondantes sur un petit carnet donné aux requins. Un mois après le dispositif mis en place, les requins et les rémoras peuvent demander à changer de coéquipier pour le reste de l'année que si ceux qui le demandent ont de bonnes raisons. Après avoir terminé leur séance, les requins sortent leur carnet et les donnent aux rémoras pour qu'ils puissent marquer ce qu'ils ont fait durant cette séance. À la fin de chaque trimestre, le rémora, qui, je le rappelle, est le 3e, doit remplir une sorte de bulletin qui se trouve dans le carnet donné en début d'année aux requins. Il le remplit en compétences avec un avis général donné à la fin. Le requin, lui, obtient une feuille où certaines questions sont posées pour savoir s'il se sent bien avec son rémora, si ses notes ont changé depuis qu'il s'est inscrit à l'activité, etc. Faisant partie de ce dispositif, je peux affirmer son efficacité et son besoin pour les 6e. J'aime beaucoup ce dispositif et aider d'autres élèves me fait plaisir. J'ai heureusement de la chance qu'avec mon requin tout se passe bien. Elle et moi, nous nous entendons plutôt bien, ce qui facilite le travail avec elle. Je conseille à beaucoup de personnes de faire cette activité, car ça l'aide autant elle que moi. Effectivement, quand je l'aide à travailler, je me rends compte qu'il y a quelques petites choses que j'ai oubliées en 4 ans. Pour plus de détails, j'ai passé le micro à une assistante d'éducation qui est en charge du dispositif pour qu'elle nous explique plus explicitement ce qu'est Requin Rémora.
Combien d'élèves de 6e et de 3e participent au dispositif Requin Rémora ?
Alors cette année, on a une trentaine d'élèves de 6e et une trentaine d'élèves également de 3e.
Pourquoi as-tu choisi d'organiser ce dispositif ?
Alors en début d'année, M. Paris et le chef d'établissement recherchaient une personne pour s'occuper de Requin Rémora. Et tout simplement, je suis en préparation d'un concours, le concours pour être CPE. Donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne initiative de m'occuper de ce dispositif au sein de l'établissement.
Pourquoi l'avoir créé et qui s'est chargé de la création de l'activité ?
Alors l'activité, elle a été... c'est pas moi qui l'ai créée. Elle existait déjà au sein du collège depuis 3 ans. C'est M. Paris qui a importé ce dispositif parce qu'il a déjà exercé dans d'autres établissements. C'est un dispositif d'accompagnement basé sur le tutorat. Du coup, voilà, c'est un dispositif de tutorat, c'est pour aider les élèves au niveau des apprentissages.
Comment cela est organisé ?
Alors les séances, elles sont organisées sur le temps du midi et 2 ou sur le temps de début de journée, c'est-à-dire de 8h à 9h ou de 15h45 à 16h30. C'est les élèves qui choisissent eux-mêmes leur créneau en fonction de leur disponibilité.
Quand le dispositif a-t-il été mis en place ?
Alors, il me semble que c'est depuis 3 ans que c'est au sein de l'établissement, que c'est présent. Après, le dispositif en soi, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Ce n'est pas tous les établissements qui le dispensent.
Et pourquoi Requin Rémora est appelé comme ça ?
Alors tout simplement parce que le requin, il faut savoir qu'il est toujours accompagné de ses rémoras lors de ses déplacements. C'est un poisson pilote. Donc le fait que le troisième accompagne le sixième, en fait le sixième a besoin du troisième et le troisième a besoin aussi du sixième. C'est pour ça que l'appellation requin rémora a pris son sens.
D'accord, merci beaucoup.
Merci Lola, tout de suite Demon Slayer, le coup de cœur de Athénaïs.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est Athénaïs au micro et je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve aujourd'hui sur Ondes de Choc, la radio du collège de Kisak. Paolo, lors de la dernière émission, vous a proposé une chronique sur l'anime japonais Naruto. Eh bien moi, je vous ai préparé une chronique sur Demon Slayer, qui est aussi un anime japonais, célèbre dans le monde entier. Je l'ai découvert sur Netflix l'année dernière sous les conseils de ma grande sœur. Vous avez la possibilité de regarder cet anime sur plusieurs plateformes, Netflix, Wakanim et Amazon Prime Video. Il a été créé par les studios d'animation japonais Ufotable. C'est aussi une série de mangas écrite et dessinée par une femme, Koyoharu Kochoj. Notons qu'il est très rare pour qu'une femme soit mangaka. Demon Slayer est un anime d'action, d'aventure, de fantasy et de drame. Au total, 23 livres sont sortis aujourd'hui, traduits dans le monde entier. Il compte pour la première saison 26 épisodes et adapte la première saga, l'évolution de Kamado Tanjiro, la deuxième saison. La deuxième saison se décompose en deux parties. La première qui récapitule sur 7 épisodes l'arc du train de l'infini, adapté en film en 2020. Et la seconde qui récapitule l'arc du quartier des plaisirs, qui est toujours en cours aujourd'hui. On passe tout de suite à l'histoire. Dans Demon Slayer, on suit le périple de Kamado Tanjiro qui a retrouvé sa famille déchiquetée par des démons. Une seule survivante, sa petite sœur Nezuko. Le problème, c'est qu'elle s'est fait transformer en démon. Mais elle n'est pas comme les autres, car elle protège son frère, alors que si elle voulait le manger, elle l'aurait déjà fait. Tanjiro va donc chercher un moyen de rendre sa sœur à nouveau humaine. Pour cela, il doit retrouver le plus grand des démons, Muzen Kibutsuji. Maintenant, les personnages. Tanjiro est le personnage principal, Nezuko est sa petite sœur, et je la trouve trop mignonne. Zenitsu, il a peur de tout, et il est amoureux de Nezuko. Et Nosuke, il a une tête de sanglier. Il y a aussi les 9 piliers. Un pilier est la personne la plus forte avec son élément. Ils apparaissent à la fin de la première saison et les autres saisons sont consacrées à un pilier en particulier. Par exemple, la saison du pilier du feu et l'arc du train de l'infini. Voici quelques piliers. Gyo Tomioka, pilier de l'eau, qui a protégé Tanjiro à la fin de la saison 1. Et Mitsuri Karoji, pilier de l'amour, mon pilier préféré. Maintenant, je vais vous parler des armes. Les épées du soleil, aussi appelées katana, sont des lames spéciales utilisées et fabriquées spécifiquement par l'armée des pourfendeurs de démons. Pour les tuer, elles sont forgées à partir d'un minerai unique, qui absorbe constamment la lumière du soleil, l'une des seules faiblesses majeures des démons. Par conséquent, la décapitation par ce type de lame est l'un des seuls moyens par lesquels un humain peut tuer un démon, l'autre étant l'utilisation d'une arme enduite de poison de glycine. Les épées du soleil prennent une couleur distincte lorsqu'elles sont tenues pour la première fois par leur propriétaire. C'est pourquoi ils sont également appelés les lames à couleur changeante. Cependant, le titulaire doit avoir une certaine compétence, sinon la lame ne changera pas de couleur. Bref, je vous conseille d'aller voir cette série. Je vous remercie de m'avoir écouté, portez-vous bien et à la prochaine.
Merci Athénaïs pour cette chronique très intéressante. Nous passons à Paolo avec son coup de cœur pour Teen Wolf.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, c'est Paolo sur Onde de Choc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Teen Wolf, cette série télévisée. J'ai découvert cette série grâce à ma sœur. Je regarde cette série sur ma télévision et mon téléphone. Commençons par un petit résumé de la série. Teen Wolf est une série télévisée américaine et drama fantastique de 100 épisodes environ, 42 minutes, par Jeff Davis. En septembre 2021, Jeff Davis annonce la production d'une suite sous format d'un long métrage intitulé Teen Wolf The Movie pour une sortie en 2022. Teen Wolf signifiant adolescent loup en français. Si vous voulez regarder cette série, elle est diffusée sur MTV, sur France 4 et également présente sur Netflix. Et maintenant, le synopsis. Une nuit, Scott, le personnage principal qui est un jeune lycéen, joueur de cross au lycée de Beacon Hills, se promène dans les bois à la recherche de la moitié d'un cadavre, avec son meilleur ami Styles. C'est dégoûtant. Il se fait attaquer par une énorme bête sauvage. Il s'en sort avec une morsure à l'abdomen, mais il découvre peu après qu'il est devenu un métamorphe. Dès lors, il doit trouver un équilibre entre sa nouvelle identité et les nombreux dangers qu'elle présente pour sa vie d'adolescent. Tout au long des saisons, il s'efforce de protéger ses proches, ainsi que d'en apprendre davantage sur sa condition de métamorphe et les mystères qui l'entourent. Mais revenons un peu sur la création de la série. En juin 2009, MTV annonce l'adaptation du film Teen Wolf en une nouvelle série télévisée mettant l'accent sur l'histoire d'amour, l'horreur et le mythe du loup-garou. Il voulait en faire une version plus sombre, plus sexy et plus angoissante que l'original. Son désir était de faire un thriller avec des accents de comédie pour renouveler les films des années 90. Pour l'aspect du loup-garou, ils se sont orientés vers quelque chose d'un peu plus comme le labyrinthe de Pan. Et en effet, les créatures de Guillermo del Toro ont été une source d'inspiration magnifique, élégante et effrayante à la fois. Le président de la chaîne MTV, Chris McCarthy, a annoncé que lui et Jeff Davis sont tous les deux en discussion pour relancer Teen Wolf. Dans quelques années, avec de nouveaux acteurs et une nouvelle histoire, il s'agirait d'un reboot de la série. Scott, qui est le personnage principal de la série télévisée, s'est montré intéressé par l'idée de rejoindre le projet, tout comme son meilleur ami. Le 24 septembre 2021, la plateforme MTV a officialisé la commande d'une suite de Teen Wolf qui prendra la forme d'un film. Il y a certains épisodes où il y a des mystères que je n'arrive pas à comprendre, mais bref, j'ai trop hâte que le film sorte, je le regarderai immédiatement. J'espère que ce sujet sur Teen Wolf vous aura plu, à très bientôt pour le prochain épisode, bye bye.
Merci Paolo pour cette découverte. Place à Laurie Sellogan qui vont nous parler des livres les plus lus au monde.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Laurie Sellogan. Nous allons vous présenter les livres les plus vendus au monde, mais nous pouvons supposer que ce sont les plus lus peut-être.
En numéro 10, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, publié en 1865 et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.
En numéro 9, 10 petits nègres d'Agatha Christie, publié en 1939 et vendu à plus de 100 millions d'exemplaires.
En numéro 8, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1943 et vendu à plus de 140 millions d'exemplaires. Le Petit Prince est une œuvre de langue française la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry, publiée en 1943 à New York, simultanément à sa traduction anglaise. C'est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants.
En numéro 7, Le Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien. La trilogie du Seigneur des Anneaux a été vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Le Seigneur des Anneaux est une trilogie littéraire aventurière.
En numéro 6, Le Comte de Deville de Charles Dickens, œuvre vendue à plus de 200 millions d'exemplaires, est un roman de Charles Dickens publié en feuilleton hebdomadaire du 30 avril au 25 novembre 1859 dans la revue All the Year Round que Dickens vient de fonder.
En numéro 5, Harry Potter, J.K. Rowling, vendu à plus de 450 millions d'exemplaires, une série anglaise suivant un jeune sorcier du nom de Harry Potter. Il a survécu au sortilège de mort d'un grand sorcier qui veut se venger. Il va dans une école magique nommée Poudlard. Il apprend la magie et à survivre.
En numéro 4, Don Quichotte de la Mancha, Miguel de Cervantes, vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. À la fois roman médiéval et roman de l'époque moderne à l'heure naissante, le livre est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique des structures sociales d'une société espagnole rigide et vécue comme absurde.
Et maintenant, le podium. Mais ce ne sont plus des romans, mais des livres religieux et politiques. Donc maintenant, le top 3.
En numéro 3, le petit livre rouge vendu à 800 millions d'exemplaires. Les citations du président Mao Tse-tung, parfois aussi appelées les plus hautes instructions.
En numéro 2, le Coran, avec 3 millions d'exemplaires. Acheté et traduit en plus de 50 langues. Le Coran, le deuxième titre au niveau mondial, est ainsi texte sacré pour les musulmans, qui est à ce jour le premier et plus ancien livre connu en arabe.
Et nous terminons le top 10 avec la Bible, avec 4 milliards d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa sortie, au Moyen-Âge. La Bible, texte sacré de référence pour la religion juive et chrétienne, elle comporte un ensemble d'écrits très variés, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament.
Voilà, c'est tout. Au revoir.
Merci à vous deux. Maintenant, place au sport avec Valentin et Charlie qui vont nous parler de l'homme le plus rapide du monde.
Bonjour, aujourd'hui pour la chronique sport avec Valentin, on va vous parler d'un record qui a été atteint en 2012 par l'Autrichien Felix Baumgartner. Il a sauté à plus de 38 km d'altitude, une prouesse qui a été diffusée partout dans le monde. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler.
On peut, en allant sur YouTube, voir la GoPro que portait Félix lors du saut. On peut également aussi se rendre compte de sa vitesse folle, apparaissant aussi les battements de cœur par minute.
C'est impressionnant. Je vous invite aussi à regarder le docu-fiction Space Dive, qui retrace le parcours de Félix. Au fait, Space Dive, en anglais, ça veut dire plongée spatiale. Cette opération qui a été organisée par Red Bull, qui aime bien accumuler les records.
Je vous propose de faire un saut dans le passé. Nous sommes le 14 octobre 2012, le monde entier était rivé sur son écran pour visionner le record et l'exploit que va faire Félix Baumgartner. Félix s'apprête à sauter de sa capsule qui se situe à 38 km d'altitude. Félix attend les dernières vérifications pour sauter.
Avant de sauter, Félix prononce une phrase qui deviendra mythique. « Now I'm going to the home ». Ce qui veut dire en français « maintenant je vais à la maison ». Et c'est à la fin de cette phrase que Félix se laisse tomber dans le vide pour battre le record de vitesse.
Ça y est, c'est fait. Félix va tenter de battre le record de vitesse. Lors de la chute, Félix a tourné sur lui-même à très haute vitesse. Il s'est même évanoui pendant de très courtes secondes, mais heureusement, il a atterri sur Terre en vie.
Le record de base était initialement prévu le 9 octobre 2012, mais il fut annulé pour cause de vent fort. Le 24 octobre 2014, Alan Eustace a battu le record du plus haut saut du monde. Il avait sauté à 41 km d'altitude. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle chronique de sport. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Success.
Merci Valentin et Charlie. Tout de suite, nous allons découvrir la passion de Hippolyte, la danse.
Bonjour auditeurs, auditrices. Je m'appelle Hippolyte, c'est une première pour moi à la radio. J'ai choisi de vous présenter une chronique sur la danse parce que ce sport est une véritable passion. Cela va faire 3 ans que je pratique cet art dans une association. La danse est un domaine très large. Moi, je pratique de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse moderne jazz. Je fais environ 10 heures de danse par semaine. Je prends des cours à Sauve et à Alès. J'y vais le lundi et le mardi après l'école, le mercredi et le samedi. Pour ce sport, il vous faut une bonne mémoire, des chaussons de danse ou des pointes pour les plus expérimentés, des collants. Moi, je suis un garçon et je fais de la danse et je me sens super bien. Fini les clichés, la danse est un sport mixte. Je suis le seul garçon dans mes 2 cours de danse. J'aime tellement la danse que l'année dernière, mes parents m'ont soutenu pour aller au conservatoire d'Avignon. Le conservatoire est un collège ou lycée où l'on peut se spécialiser dans des sports ou des activités manuelles. Technologie, de la danse, de la natation, de la musique, etc. Pour intégrer l'école, on doit réussir un concours. J'ai le récit du premier coup. L'emploi du temps est aménagé, plus de cours sportifs ou technologiques que de cours normalement enseignés. Donc moi, j'avais 12 heures de sport par semaine. Il y a un internat où l'on peut dormir tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, pour pouvoir profiter de ses proches ou se reposer. Pour moi, l'expérience de l'internat fut difficile, car j'ai du mal à quitter mes parents, donc je suis partie, mais j'aimerais y retourner pour la 3e ou quand je serai au lycée. J'ai voulu faire ce sport parce que j'ai vu les danseurs du conservatoire d'Avignon danser à Sauve sur la place Astruc. Ce sport me donne des émotions. Je veux depuis toujours devenir un danseur étoile et j'espère réaliser mon rêve.
Merci pour ce partage, Hippolyte.
Aujourd'hui, je vous propose une chronique culturelle. Je vais vous parler d'un artiste qui est connu mondialement. Qui n'a pas vu les images de l'œuvre Girl with Balloon ? Lors d'une vente aux enchères, à peine la vente vient de se clôturer qu'une alarme retentit du tableau et l'œuvre se retrouve complètement découpée. C'était en fait une broyeuse à papier dissimulée dans le cadre, une action menée par son propre artiste. Avez-vous deviné de qui il s'agit ? De Banksy, un artiste anglais qui a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans. Banksy, c'est un pseudonyme, et encore personne aujourd'hui ne connaît sa véritable identité. C'est ce qu'on appelle un street artist, en français un artiste de rue. Malgré le combat sociétal et politique qu'il mène, il reste hors la loi. Mais bien évidemment considéré comme un artiste pour ceux qui le souhaitent et qui l'encouragent dans ses actions, souvent provocatrices. Pendant 10 ans, à la fin des années 1990, Banksy a vécu à Easton, en Pennsylvanie, puis il a déménagé à Londres vers 2000. Étant plus jeune, Banksy fait partie d'un groupe de graffeurs. Il aurait été influencé par la relation entre artistes et musiciens. C'est à Bristol que Banksy réalisa ses premières œuvres. Il se forge une renommée et les médias commencent, eux aussi, à s'y intéresser. Il participe au festival de graffiti Wall on Fire en 1998, dans le quartier portuaire de Bristol. En 1999, il crée la fresque The Mad Mad West. En 2004, il fait imprimer de faux billets de 10 livres. Il remplace l'effigie de la reine d'Angleterre par celle de Lady Diana et change la mention Bank of England en Banksy of England. Il en disperse la plupart lors du carnaval à Notting Hill. En 2005, lors de son exposition Shrewd Owls, il détourne des tableaux de Claude Monet ou de Vincent Van Gogh et à cette occasion, il libère 200 rats. Le temps passe et ses délits s'ajoutent. Au cours de l'été 2009, une importante exposition lui a été consacrée au musée de Bristol, en Angleterre, avec plus de 100 œuvres et il aura accueilli plus de 3000 personnes et visiteurs pendant 12 semaines. Malgré le fait que certaines personnes le considèrent comme un artiste qui nuit à leur quotidien, leur rue ou leur ville, il persévère et se forge une renommée mondiale. Bref, Banksy est vu d'un point de vue très différent selon chaque personne, incroyable pour certains, horrible pour d'autres. Personnellement, je trouve que les projets de cet artiste sont tous extraordinaires et qu'ils méritent d'être admirés. J'aime aussi les actions qu'il mène et les causes contre lesquelles il lutte. Par exemple, il a acheté un bateau nommé le Louise Michel et il a frété le navire dans la plus grande discrétion pour l'envoyer dans la mer Méditerranée afin de porter secours à des naufragés et des migrants. Le bateau, décoré d'un graffiti représentant une petite fille en gilet de sauvetage et brandissant une bouée en forme de cœur, a levé l'ancre le 18 août 2020 au port espagnol de Borriana. Encore une preuve qu'il prend son combat à cœur et lutte contre des inégalités mondiales. J'aime aussi le côté mystérieux et anonyme qu'il garde, le fait qu'on ne sache pas qui il est. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur son site officiel, banksy.co.uk. Toutes ses œuvres dévoilent un fond très révélateur et intéressant, où l'on pourrait débattre des heures dessus, mais le temps presse et je dois vous laisser. Alors à bientôt pour une prochaine émission. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. All they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time it's tricky. How is it, babe? It's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on time it's tricky. Tricky, tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time.
Merci à toi Lily. Nous finissons par les incroyables records en Espagne par Paul et Maël.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude,
on va partir vers une nouvelle destination aujourd'hui, nous partons en Espagne.
Ou pas, vous verrez pour ce troisième record. Pour ce premier record, on va parler de Damasio Fernandez qui possède la plus grande collection de cannes en bois.
Il en possède énormément et en crée même de ses propres mains. Il en possède 1872, ce qui est énorme pour ce genre d'objet.
J'espère qu'elles lui serviront plus tard. Pour le deuxième record, qui est très spécial, Cristian Roberto López Rodríguez, qui est un nom très long d'ailleurs, a tenu un parapluie sur un doigt pendant 3 h 31 minutes.
Il a dû beaucoup s'ennuyer durant le Covid et n'avait rien d'autre à faire que de battre des records du monde insolites. Et je pense qu'il y a déjà en patte plein d'autres qui sont plus insolites les uns que les autres. Pour ce dernier record, on va parler d'un Espagnol qui s'est dit « Et si on allait sur chaque continent faire un concert le plus vite possible ?»
Car Rafael Serralé a fait un concert en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, incluant aussi l'Antarctique. Une idée de folie qui réussira en 154 jours. Il est passé par Chicago aux États-Unis, Kuala Lumpur en Malaisie, Christchurch en Nouvelle-Zélande, Ushuaia en Argentine, Neco Harbour en Antarctique, Oviedo en Espagne et finalement à Mombasa au Kenya avec sa guitare.
Ces efforts ont également permis de récolter des fonds pour des œuvres caritatives et de sensibiliser au changement climatique.
Très fort de sa part, on l'applaudit très grandement avec toute l'équipe.
Et ça sera finalement déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, à la prochaine pour une nouvelle chronique en Angleterre.
Merci à vous deux et effectivement, c'est très impressionnant.
L'émission touche actuellement à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous tenons à remercier au passage la professeure documentaliste Madame Rouvière, ainsi que Siam et Antoine de Radio Escapade.
Sans oublier bien sûr notre technicien Elliot, nous vous disons à la prochaine fois pour la 4e émission de Onde de Choc. Merci pour votre écoute et à la prochaine.
Le collège de Kuta, des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez Onde de Choc.